Bonjour et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aujourd'hui, numéro un peu spécial, un épisode matinal pour une émission dominicale, Golgotha, épisode 2. J'aimerais ce soir revenir sur l'histoire du community manager le plus rentable de toute l'histoire de l'humanité. Il a fait d'une petite secte de mystiques juifs la religion, la plus populaire de son temps. Il a traversé toute la Méditerranée pour prêcher le message de Jésus de Nazareth, alors qu'il ne l'avait même jamais croisé. C'est sans doute l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Sans lui, l'église catholique n'existerait pas. Cet homme, c'est Paul de Tarse, Saint Paul pour les chrétiens, Shaoul pour les intimes. Et pourtant, rien ne prédestinait Paul à cette destinée. Non, rien du tout. Son histoire commence comme un western spaghetti, traquant la jeune église tel un chasseur de primes. Un jour, il tombe de son cheval dans le désert et là, il ne fut jamais plus le même. Et d'une certaine manière, nous non plus. Une histoire aussi folle que mal connue que je m'en vais vous raconter, toujours accompagnée de musique gospel. Je vous propose donc de marcher sur les pas de Paul et de partir à la rencontre de ces juifs hostiles au Christ, ces juifs qui ont accouché de cet homme qui allait mettre une fin définitive au judaïsme antique avec ses concepts de père, de fils, de Saint-Esprit, de péché originel et d'amour de Dieu, sans oublier un petit débat sur la circoncision qui a tout changé. Pour comprendre enfin comment cette petite secte juive est devenue l'Église catholique universelle, ou comment la tragédie du Fils de Dieu est devenue l'épopée de Saint Paul. Une petite histoire méditerranéenne qui nous mènera de Jérusalem à Damas, en passant par Rome et Corinthe, mais d'abord, il faut que je vous emmène dans une petite ville de Cilicie, dans les années 30. Agni Parthene Despina Achrante Theotoke Notre histoire commence à Tarse, en actuelle Turquie, au 1er siècle de notre ère. Là, au bord de la Méditerranée, vit un juif, Shaoul. Shaoul est le fils d'un tisserand, juif hellénisé, relativement bourgeoisé, sa famille n'est pas tant que ça versée dans la religion. La communauté de Tarse est petite, largement assimilée à l'Empire. Pour tous ces juifs qui vivaient loin de Jérusalem, le temple, le Dieu unique, la Torah, tout ça, était devenu relatif. Ils vivaient au rythme de Rome et de son économie, célébrant encore des fêtes juives, faisant parfois le pèlerinage jusque Jérusalem, mais plus par tradition que par ferveur. Shaoul souhaite cependant retourner à la religion. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, on l'a vu, mais dans l'épisode précédent, à l'époque, l'Empire romain est au sommet de sa gloire. Il impose sa domination sur tous les peuples de Méditerranée, et pour les jeunes juifs comme Shaoul, Rome, c'est l'Égypte. Un empire idolâtre, décadent, violent et aux mœurs libertines, et c'est pourquoi de nombreux juifs retournent aux fondamentaux de la religion, par un renouveau de la pratique ou en suivant les innombrables sectes qui pullulaient. Pour suivre sa foi, Shaoul prend son baluchon et descend à Jérusalem. Il compte se rendre au temple pour étudier auprès des maîtres de la Torah, une sorte d'Erasmus avant l'heure, mais là-bas, il trouve une drôle de ville. Jérusalem n'est pas comme dans ses souvenirs, la cité est sombre, rythmée par les émeutes, les attentats, contre des garnisons de l'Empire, contre le temple, quand ce n'étaient pas en fait les expéditions punitives de Rome qui se vengeaient de certains juifs ou d'autres sectes. L'époque, il faut le dire, n'est pas à la fête. Quelques semaines auparavant, le peuple juif s'était déchiré en faisant crucifier Jésus de Nazareth, un homme qui se disait le Fils de Dieu. Beaucoup avaient cru que c'était le Messie, le Christ. Certains regrettaient de l'avoir laissé mourir. On disait alors qu'un homme comme Jésus aurait pu rétablir le trône de David sur Israël et mettre une fin définitive à l'Empire. Mais il avait dit que son royaume n'était pas de ce monde, alors ça en avait troublé des gens, même au temple. D'ailleurs, au temple, justement, c'est pas mieux, la querelle sur l'immortalité de l'âme entre sadducéens et pharisiens empêche la religion de progresser. Comme si la loi de Moïse n'arrivait plus à convaincre personne, comme si un parfum de fin du monde planait dans l'air. Les apôtres qui ont survécu à Jésus, de leur côté, continuaient de soigner les gens, à produire des miracles. Ils vivaient en communauté, en baptisant les gens. Chacun avait vendu tout ce qu'ils avaient pour en faire don à leur drôle de secte, qu'ils appelaient l'Église, Ecclesia en grec, l'Assemblée. Ils squattent dans les villes, souvent en périphérie, près des pauvres, des camps de lépreux ou des femmes impures. Or, Shaoul n'aime pas cette sorte de bande qu'on appelait les Nazaréens ou les chrétiens. Tous ces miracles, toutes ces résurrections, l'égalité entre les hommes, pour lui, c'était des balivernes. Un jour, alors qu'il revient de sa synagogue, Shaoul aperçoit dans les rues de Jérusalem une foule de gens s'en allant supplicier un inconnu. Cet homme, c'est un disciple de Jésus, évidemment, un certain Étienne. Étienne va se faire lapider et comme le veut la tradition juive, on autorise le condamné à dire quelque chose avant de se faire exécuter. Étienne improvise donc un long discours où il fait l'histoire du peuple juif. Il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Josué, pour terminer par Jésus. Pour lui, il y avait une suite logique entre tous ces gens, entre la révélation faite au patriarche et le message de celui qu'il appelait le Christ. Pour Étienne, Jésus n'est donc pas qu'un illuminé de plus, c'était le descendant du roi David, il avait apporté une nouvelle alliance, un nouveau testament de Dieu, cette fois non plus pour Israël, mais pour le monde entier. Un royaume d'éternité où chaque âme avait sa place. Étienne termine son discours en menaçant l'assemblée. Homme à la nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'a-t-il pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée. C'est suite à ces mots et dans des cris de colère que la foule exécuta Étienne. Premier martyr chrétien, Shaoul a vu la scène, il l'approuvait, mais il n'a pas levé la main sur Étienne, non, Shaoul ne voulait pas se mouiller ce jour-là du moins, il ne fera que regarder, lui, il gardait les vêtements de ceux qui lançaient les pierres. C'est vous dire la valeur morale de ce type. Il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins, ces histoires de Jésus-Christ pour Shaoul, ça commence vraiment à bien faire, il demande au grand rabbin, Gamaliel, de partir sur les routes pour traquer les chrétiens, son objectif n'était ni plus ni moins d'exterminer cette secte qui divisait le peuple. Luc, un médecin grec, témoin de l'époque, nous raconte que notre pauvre Shaoul était, je cite, « animé d'une rage meurtrière contre les disciples de Jésus ». Shaoul fait ainsi sa besogne, harcelant les premières communautés chrétiennes de Jérusalem, traquant les adorateurs du Christ partout où ils se trouvaient, les envoyant en prison, les faisant assassiner. Shaoul était rempli de haine et il était tellement bon pour ça qu'il reçoit une mission spéciale. Le temple lui annonce que les apôtres de Jésus ont quitté Jérusalem depuis le martyre d'Étienne. Ils se sont réfugiés à Damas, en Syrie. Il s'agit donc de les débusquer pour les faire revenir à Jérusalem et, évidemment, les exécuter. Shaoul prend du galon, il accepte la mission, monte sur son cheval et s'en va, fier comme Artaban, sur la route de Damas. Mais il est venu le temps de notre face A, je vous propose donc une autre révélation. Le 4 décembre 1956, par un coup de la Providence, se sont retrouvés dans le même studio, à Memphis dans le Tennessee, Johnny Cash, Eddie Cochran, Gene Vincent et Elvis Presley. Les quatre plus grandes stars de l'époque qui se mettent à jammer devant le micro, ce fut tellement un événement qu'on se souvient aujourd'hui de ce groupe comme du Million Dollar Quartet, le quartet qui pesait $1 million. Et nos quatre apôtres de la musique du diable vont interpréter leurs chansons, mais aussi et surtout, ils vont improviser, et en particulier sur Jésus. Avec un Elvis au sommet de sa puissance qui domine toute la session, une véritable masterclass, c'est folk, c'est blues, c'est country, c'est chrétien, bref, c'est purement américain. Je vous passe donc comme première pause musicale Just a Little Talk with Jesus, juste une petite conversation avec Jésus, et ce, en attendant que Shaoul entrevoie la lumière sur la route de Damas.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. Then he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right.
Jesus,
I'll
tell him all about
it,
my troubles.
He will hear our faint cry, and he will answer. Well, when you will feel a little fire will turn, and you will know the little fire burn, you will find a little talk with Jesus makes it right.
Slow
it
on.
We have doubts and fears.
Out the tears.
Your eyes be filled with tears.
Filled with tears.
Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night.
Yeah.
When he wrote my name above,
high.
And he made my heart in love.
Oh.
Well, just a little talk with my Jesus,
Jesus
gonna make
it right.
Now let us have a little talk with my Jesus.
Please let us
tell him all about our trouble.
Now he will.
He'll hear our faintest cry.
You know he will.
fire is a-burning. Let us have a little talk with my Jesus, gonna make it right.
Yes, sir.
Sur le chemin de Damas, une lumière qui venait du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. J'entendis une voix qui me dit en hébreu « Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Est-ce la chaleur du soleil? Est-ce la culpabilité? Ou était-ce tout simplement la grâce de Dieu? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur la route de Damas, Shaoul est pris d'une vision. Il tombe de son cheval, se met à parler tout seul, il gémit, se jette par terre. Ses compagnons se demandent ce qu'il se passe. « Je ne vois rien, je ne vois plus rien », répète-t-il. Alors on l'emmène Fissa à Damas, où il reste alité pendant 3 jours. Ananias, un disciple de Jésus, vient le voir à contre-cœur, car il sait que ce type est un persécuteur. Mais enfin, Ananias avait eu, lui aussi, une vision. Jésus lui était apparu dans un rêve pour dire « Les gars, pas touche au petit Shaoul, car je l'ai choisi pour répandre mon message. » Bon, si c'est Jésus qui le dit, c'est lui le patron, alors... Ananias pose ses mains sur les yeux de Shaoul, qui retrouve la vue. Ça y est, Shaoul a compris la leçon, il ne persécutera plus jamais le Christ, il a vu la lumière en devenant aveugle. Il demande à se faire baptiser, il change de nom, abandonne Shaoul pour devenir Paul, Paulus le Petit, par humilité. Il rejoint la jeune église et en devient le plus fervent défenseur. Paul, c'est en quelque sorte le premier à se radicaliser en Syrie. Il veut quitter Damas pour répandre le message de Jésus, mais les Juifs qui ont appris sa conversion veulent le faire tuer. Alors il doit se cacher dans un gros panier pour sortir hors de Damas, et là commence un voyage extraordinaire dans toute la Méditerranée. Paul visite d'abord la Turquie, Antioche, Chypre, puis la Grèce, Corinthe, Thessalonique, Philippe, Athènes. Il revient à Césarée, Jérusalem, puis repart. Il passe par Rhodes, la Crète, Malte, et pose finalement le pied à Syracuse, en Sicile, pour remonter vers Rome, où il finira sa vie. Partout où il se posait, il prêchait le message chrétien, fondait des communautés d'hommes, des églises, qui aujourd'hui encore existent toujours. Paul, c'était le genre de type à s'établir chez vous, il observait vos traditions, puis repartait, et vous écrivait une lettre pour dire à quel point vous étiez dans l'erreur. Contrairement aux évangiles, les lettres de Paul sont difficiles à lire, le ton de Paul est moralisateur, péremptoire, car ces textes n'avaient pas pour but de raconter une histoire, mais d'expliquer le sens de cette nouvelle religion. Aussi insupportable que brillant, ce qui est sûr, c'est que sa verve est à l'origine de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a fait sortir Jésus de Galilée pour l'emmener partout en Méditerranée. Ce qui me fait dire que Paul, c'est le community manager le plus rentable de toute l'histoire. Il aura même une place plutôt importante dans l'Église primitive, au même titre que certains apôtres, tant son travail était reconnu, même de son vivant. C'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs convié au tout premier concile de l'Église. Un concile plutôt important qui entendait régler une question centrale chez les chrétiens, celle de la circoncision. La Torah, vous le savez, demande aux Juifs de se circoncire. Mais Jésus demande aussi de convertir tout le monde. Or, les Grecs, les Anatoliens, les Romains ont cette pratique en horreur. Donc qu'est-ce qu'on fait des incirconcis? Est-ce qu'on leur coupe leur prépuce de force? Ben non, ça fait mauvais genre, surtout que Jésus avait dit que ce qui comptait, ce n'était pas ce qui entrait dans la bouche, mais ce qui en sortait. Autrement dit, toutes ces lois, ces traditions, ces régimes particuliers, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était ce qui sortait de la bouche, les mots, les sentences, les jugements, bref, ce qui compte, c'est le lien avec les autres. Et donc la circoncision, quoi? On autorise, on n'autorise pas? C'est quand même une très vieille prescription, ça remonte à Abraham. Pour Jacques, évêque de Jérusalem et frère de Jésus, pas touche à la circoncision. Pierre, l'apôtre favori du Christ, est plus tempéré, il n'est pas d'accord, alors il donne ses arguments et Paul se joint à lui. C'est en tout cas une véritable polémique qui déchire Pierre, Paul et Jacques. Aujourd'hui, si les chrétiens préfèrent baptiser plutôt que de circoncire leur enfant, c'est avant tout suite à ces débats qu'il y a eu entre les apôtres, mais surtout à la synthèse qu'en a fait Paul dans sa lettre adressée aux Romains. Voilà ce que Paul disait à propos de la circoncision. « Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ce n'est pas la marque dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui est caché qui fait le juif. Sa circoncision est celle du cœur. Et c'est cet avis que l'Église gardera. » En d'autres mots, c'est bon les gars, on arrête de se couper le zobe, fini la polygamie, on mangera du lapin et du porc, parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas une loi sortie de nulle part, ce n'est pas non plus des traditions héritées d'une époque reculée qui vous définissent. Non, l'important c'est l'alliance que vous contractez avec le Père, au fond de votre âme, cela seul vaut. Chacun sera jugé individuellement selon ce qu'il a fait et ce qu'il a pensé, telle est la nouvelle alliance que proposait Jésus avec Paul. Le peuple élu désormais, c'est le monde entier. Une idée novatrice mais qui ne fait pas l'unanimité parmi les apôtres. Quant aux juifs, quand on a commencé à leur dire que les chrétiens convertissaient des incirconcis, je vous laisse imaginer ce qu'ils ont pu en penser. Paul finit par se faire trahir, c'est une vieille tradition chrétienne, ils le font emprisonner, alors ils s'évadent plusieurs fois, puis ils remettent le grappin dessus définitivement et l'envoient à Rome où la légende raconte qu'il finira sa vie. Soit dans l'anonymat de son église au fond des catacombes, soit martyrisé comme ce fut le lot des chrétiens depuis le premier jour où Jésus avait prêché en Galilée. Mais malgré tout ça, Paul a gagné. Il a gagné la bataille des esprits car c'est sa vision du Christ qui a perduré au point que ses lettres furent ajoutées au canon chrétien juste après les évangiles. Bien qu'il n'ait jamais croisé Jésus, bien qu'il l'ait combattu jusqu'à faire tuer ses partisans, malgré tout ça, c'est Paul qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la chrétienté. Un message, une anthropologie apportée par le Christ, mais codifiée par Paul pour le rendre compréhensible à tous. Ce qui nous mène à la phase B de cette émission, Johnny Cash qui médite sur Paul. Il s'imagine marchant dans la vallée de l'ombre de la mort et parlant à ce bon vieux Paul, « Un de ces jours, je me poserai et je parlerai à Paul. » Je crois que de la part de Johnny Cash, c'est une sage décision parce qu'un jour, de toute évidence, on devra bien parler à Paul et je crois qu'il vaut mieux préparer ce qu'on dira parce que le bougre n'était pas reconnu pour sa sympathie. « One of these days, I'm gonna sit down and talk to Paul. »
One of these days, I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days, I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him about his journeys, and he'll tell me about them all. One of these days, I'm gonna sit down and talk to Paul. He will introduce me to Luke and Timothy. He will introduce me to Luke and Timothy. I will be so glad to meet him, and he'll be glad to meet me. He will introduce me to Luke and Timothy. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him about his journeys, and he will tell me about them all. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him about that trip to Philippi, how he and Silas felt at Philippi, in that miracle at midnight when the jail doors opened wide. We'll sing those songs they sang at Philippi. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him about his journeys, and he'll tell me about them all. next days I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him if he ever went to Spain. I will ask him if he ever went to Spain. I'll find out if he made it. I'll find out his secret pain. I'll ask him if he ever went to Spain. Yes, one of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. I'll ask him about his journeys and he'll tell me about them all. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. I will ask him about his journeys and he'll tell me about them all. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul. One of these days I'm gonna sit down and talk to Paul.
You know, Joe was the richest man that ever lived in the land of Nod. So true, Joe.
Les voyages de Paul, les lettres qu'il a écrites, les églises qu'il a fondées relèvent encore aujourd'hui de l'extraordinaire. C'est d'autant plus prodigieux quand on sait que Paul était malade. Alors pas mentalement, bien que ça avait quand même l'air d'être quelqu'un de bien arrangé, non, il souffrait d'un mal physique plutôt mystérieux. Lui-même parle d'une écharde plantée dans sa chair, un démon envoyé pour me gifler et m'empêcher de me surestimer. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir de quel mal souffrait Paul. On sait qu'il pouvait être atteint de convulsions, de fièvres délirantes, ce qui expliquerait sa chute à cheval. Lui-même le reconnaît dans ses lettres, il dit « C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois ». Mais ce mal touchait aussi sa manière de s'exprimer. Quand on lit ses discours, on se rend bien compte qu'il ne s'exprime pas tout à fait normalement. Sa verve est énergique, nerveuse, comme s'il bégayait, comme s'il était toujours au bord de l'apoplexie. Luc, le médecin qui l'accompagnait et l'auteur d'un évangile, écrit dans ses actes que Paul avait aussi des écailles dans les yeux. Un mal donc qui rongeait à la fois son système nerveux et sa peau. Certains pensent que c'était un paludisme chronique couplé à une sorte de psoriasis en fin de cycle qui lui faisait sans doute avoir des conjonctivites assez carabinées, des crises d'épilepsie plutôt spectaculaires et un corps abîmé, maigre, faible. Ce qui est sûr, c'est que Paul souffrait la vie, celle-ci ne lui était pas très agréable, on ne peut pas dire qu'il était gâté du sort. Mais en quoi tout ça est important? Déjà parce que ça conforte la tradition chrétienne d'inversion des valeurs, les héros chrétiens ne sont pas des surhommes, ce sont des malades, des fous, des éclopés de la vie, des brigands, des femmes adultères, des prostituées. Quand on compare ces figures aux figures mythologiques de l'époque, Samson, Josué, Moïse, Ulysse, Achille, Hercule, c'est radicalement différent. Le surhomme chrétien est un sous-homme. Et c'est justement parce que c'est un sous-homme qu'il en devient surhomme. Ça, Paul l'a très bien compris, notamment quand il écrivait au philosophe grec de Corinthe « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. » Paul, c'est celui qui fait de l'enseignement de Jésus une mystique, un art de vivre, si j'ose dire, celui d'imiter la vie du Christ et de voir dans nos faiblesses son sacrifice et dans nos forces sa gloire. Mais qu'est-ce que Paul disait-il dans ses lettres pour convaincre autant de monde? Eh bien, Paul avait compris le message de Jésus, sa logique fondamentale. Une logique qui part d'une idée centrale, le constat que tous les hommes sont des pécheurs. Que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous un peu fêlés. Ce qui n'allait pas de soi. À l'époque, les philosophes grecs disaient au contraire que nul ne fait le mal consciemment. L'homme est bon par nature, s'il fait le mal, c'est parce qu'il ne sait pas, c'est par ignorance. Paul inverse la logique, nul ne peut prétendre ne jamais avoir fait le mal sans conscience, autrement dit, tout le monde a, au moins une fois, déjà merdé. À l'image de Jésus, lorsqu'il avait sauvé la femme adultère de la lapidation et qui avait dit « Que celui n'ayant jamais fauté me jette la première pierre », personne ne peut prétendre être parfaitement bon. Le constat de Paul, c'est ce qui fait la condition humaine, cette fêlure que nous avons tous en nous, cette inclinaison à ne pas toujours faire ce qui nous fait du bien, sans vraiment savoir pourquoi. « Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne devrais pas faire, je le fais », nous écrit Paul dans ses lettres. D'une manière générale, l'homme est poussé par quelque chose d'insondable. Paul ajoute, « Dans ma chair, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et qui me rend prisonnier. » Cette autre loi qui combat votre raison, les psychanalystes appellent ça l'inconscient, Paul, lui, appelle ça le péché. Nous sommes tous, nous dit Paul, inclinés vers le péché. Alors bon, c'est pas très réjouissant comme vision du monde, l'homme serait donc mauvais par nature, incliné vers le mal. Mais alors quoi? On se laisse aller à nos penchants et advienne que pourra? Non, car ce qui sauve l'âme de cet insondable, c'est l'existence d'un esprit qui, lui, est commun à tous. Paul l'explique encore une fois dans sa lettre aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. » Un esprit qui se dresse vers son père et qui crie « Papa ». Bref, nous avons tous une âme qui, elle, est inclinée à la paresse, à l'orgueil, à l'égoïsme. Elle est esclave du réel, mais ce qui est commun à tous, c'est l'esprit. Même si la notion d'âme existait déjà avant le christianisme, personne avant Paul n'avait exposé si clairement les choses. Alors avant lui, Aristote avait déjà défini l'âme, psyché, comme un principe moteur, ce qui nous faisait bouger, vivre, penser. Mais ça n'expliquait pas grand-chose, il faut le reconnaître. Comment comprendre cette part des anges qui nous fait aimer naturellement le bien, le beau, qui nous fait avoir de la compassion pour les enfants, qui explique pourquoi on culpabilise de faire le mal, pourquoi on aime les gens, même après leur mort. La philosophie grecque ne répondait pas à ces questions. En revanche, les Juifs, eux, avaient commencé à esquisser la réponse. Cette part des anges, cet insondable, tient dans la relation entre notre âme Nefesh et l'esprit, Ruah Elohim, Hagios Pneuma en grec, le souffle divin qui deviendra plus tard le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui permet la cohésion des âmes, qui relie chaque individu aux autres membres de son espèce, car l'esprit est directement connecté au divin. Il en est d'une certaine manière une émanation. Ce qu'il manquait à cette théorie de l'âme et de l'esprit, c'était de sortir du peuple juif, d'être partagé au monde entier, et ça, ce fut le travail de Paul. L'Esprit Saint, Paul l'appelle aussi l'amour de Dieu, un amour offert à tous, les juifs, les autres, les hommes, les femmes, les maîtres, les esclaves, peu importe qui vous êtes, avec une stricte égalité, et ce lien ne peut en aucun cas être brisé. J'en ai la certitude, nous dit Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Et si ce message a percolé dans toute la Méditerranée, c'est parce qu'il était bien plus puissant que la froide et rationnelle pensée d'Aristote. Car il donnait un sens au mystère de la vie, il donnait une définition à des phénomènes spirituels et psychologiques que nous ressentions tous, sans jamais pouvoir vraiment les expliquer. Car toutes les choses de ce monde, l'impôt qu'il fallait payer à Rome, les guerres, le service militaire qu'il fallait faire, les tendances qu'il fallait suivre, les villes qu'il fallait visiter, tout ça, ça ne nourrissait personne, ce n'était que des préoccupations matérielles qui disparaîtraient avec nous. Tu es poussière, et tu redeviendras poussière. Paul rappelle aux hommes qu'il y a quelque chose de supérieur au monde matériel, une œuvre à laquelle nous participons tous, et qui fait véritablement l'humanité. Ainsi, chacun de nos actes, chacune de nos décisions implique, directement ou indirectement, l'éternité. Aujourd'hui, pas une morale de cette planète ne reprend cette idée, sans jamais vraiment réaliser que le premier à l'avoir développée, ce fut un juif de Cilicie, tombé sur la route de Damas, Paul de Tarse, Saint Paul. Sur ces réflexions, je crois qu'il est temps pour nous de nous quitter. Je vous laisse avec un magnifique texte, écrit par Hank Williams et interprété par le maître de la bluegrass et du banjo, Earl Scruggs. Un poème qui aurait pu être écrit par Paul, celui d'un homme ayant vu la lumière, célébrant la joie de vivre, et ce, malgré toutes les souffrances de la vie, cette lumière qu'il a vue sur la route de Damas, celle de Jésus qui lui disait « Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » « J'ai longtemps erré sans but, me demandant quel était le chemin. Comme un aveugle qui marchait seul, je ne pouvais porter le fardeau de mes peurs et de mes inquiétudes. Et puis Jésus est venu comme un étranger dans la nuit, et il m'a rendu la vue. Maintenant, j'ai troqué le mensonge contre la vérité, oui, j'ai vu la lumière. Fini l'obscurité, adieu les ténèbres, car maintenant je suis heureux, je suis si fier. Adieu chagrin, priez le Seigneur, car oui, j'ai vu la lumière. I saw the light. » Merci de votre fidélité et de votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à une prochaine. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light.
like a blind.